Bienvenue à tous. Black and Blue est une émission que réalise à la satisfaction générale Françoise Cordet, avec ce soir la précieuse collaboration technique de Noélie Pellegrin. Ce soir donc, aux origines du jazz en Italie, André Clerjat a lu Il jazz in Italia d'Adriano Mazzoletti. Je reçois donc
André Clerjat,
lequel est venu accompagné de
Georges Pasinski.
Il suffit de songer à Norman Granz pour se convaincre que les jazzmen n'ont pas été les seuls à faire l'histoire du jazz. Non pas seulement à figurer dans ses chroniques, mais à en avoir infléchi le cours peu ou prou, d'une façon ou d'une autre, à titre d'éminence grise et souvent à leur propre insu. Dans le cas de Granz, il ne se trouvera personne pour contester que, pour le meilleur ou pour le pire, c'est une autre question. En fait, pour le meilleur et pour le pire, selon les cas. Personne pour contester que l'histoire du jazz enregistrée, sans lui, eût été profondément changée. Et sans doute aussi l'histoire de la jam session à partir du milieu des années 40. Les laïcs du jazz, ceux qui n'ont pas la vocation du musicien, ou qui, ayant été appelés, n'ont pas été élus, là je pense à des critiques comme Leonard Feather, jouent un rôle qui n'est pas négligeable. Ils célèbrent la messe, ils donnent la communion, ils administrent les sacrements. On en compte toutefois très peu qui aient eu prise, sinon sur les rites comme Granz, du moins sur les événements. En Europe, l'Italien Adriano Mazzoletti aura été, comme par exemple l'Allemand Joachim Ernst Behrendt, une de ces figures d'exception. Depuis maintenant un demi-siècle, il est entré dans la danse, ainsi que pourrait en témoigner Jean-Louis Chotan, qui se souvient parfaitement l'avoir rencontré dans je ne sais quelle coulisse de l'autre côté des Alpes, où il s'était rendu en tant que membre du quintet de Chet Baker. En plus d'être un homme épatant, Adriano est un personnage de grande culture et de grand talent. Homme de radio, il a été dirigeant de la RAI et comme président, puis vice-président du département jazz et musique légère, membre de la direction de l'Union européenne de radiodiffusion. Organisateur autant qu'observateur, promoteur autant que dégustateur, assumant bien d'autres responsabilités encore, il s'est trouvé au cœur de l'action en d'innombrables circonstances et c'est dans cette position privilégiée qu'il est devenu lui-même un acteur de la pièce. Au surplus, cette implication dans le quotidien, dans le plus concret du jazz, ne l'a jamais empêché de prendre avec le phénomène toute la distance intellectuelle nécessaire pour porter sur lui le regard de l'analyste et de l'historien. Car cet homme de terrain est aussi un homme de bibliothèque, un chercheur et un exégète. Dès la fin des années 50, il s'est mis à rassembler documents et témoignages, notamment des témoignages directs que lui-même est allé recueillir, sur le jazz européen en général et le jazz de son pays en particulier sous ses deux aspects. L'un que l'on connaît un peu en France, à savoir la musique de la diaspora italo-sicilienne aux États-Unis. L'autre dont, par nombrilisme culturel, nous ne savons à peu près rien. Je fais référence au jazz produit sur le sol même de l'Italie, notamment avant qu'on ne commence à citer, pas forcément pour de bonnes raisons du reste, le nom du pianiste Romano Mussolini, lequel fit son apparition sur la scène dans les années 50. Dès 1965, Mazzoletti remportait un prix avec, présenté sous forme de livre-disque, une étude synthétique, abrégée, mais déjà très instructive, qui, si quelqu'un avait eu l'heureuse idée de la traduire, s'intitulerait dans notre langue « 40 ans de jazz en Italie ». 17 années plus tard, il superviserait la grande encyclopédie du jazz, éditée par une maison romaine, et il signerait une première mouture de « Il jazz in Italia », fondée sur le résultat de recherches qu'il allait encore et encore approfondir. En 1997, il publierait un ouvrage de référence, son excellente biographie consacrée à Eddie Lang, et à laquelle, avec l'aide d'André Clerjat, qui connaît l'auteur comme s'il l'avait fait et parle italien comme père et mère, Black and Blue avait rendu hommage. L'an dernier, Adriano Mazzoletti a fait paraître à Turin, aux éditions EDT, une somme de 630 pages, premier volume d'une entreprise vertigineuse, le jazz en Italie des origines au Big Bang, Bond qui à la fois intimide le spécialiste français et lui donne du remords. Elle l'intimide parce qu'il s'agit d'un travail aussi colossal que méticuleux, enrichi qui plus est, et l'on sait ce que ce genre de pari exige de ceux qui se le lancent, d'une bibliographie impressionnante réunissant des titres allemands ou français, aussi bien qu'italiens et anglo-saxons, et opérant, entre autres réjouissances latérales, le recensement de tous les articles publiés sur le sujet par la presse quotidienne. Et puis d'une discographie de 150 pages seulement, mais je vous rassure, en petits caractères. Elle l'intimide en outre parce que, sur ce jazz national notamment, il s'agirait du belge, ce ne serait pas tout à fait la même chose, et sur cette période d'avant la Deuxième Guerre mondiale singulièrement, l'amateur français, observateur professionnel ou non, le plus souvent a fait l'impasse et doit tout apprendre. Mais c'est une raison supplémentaire de consulter, si l'on en comprend la langue, il jazz in Italia. Quant aux remords, eh bien, comment ne pas en éprouver lorsqu'on s'avise que chez nous, aucun bilan de cette ampleur et de cette précision, les deux ambitions vont rarement de pair, n'a encore été tenté. À moins d'en avoir été le témoin direct, a-t-on de beaucoup plus brillantes lumières sur ce qui se passait chez nous à la même époque, l'aventure de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli exceptée, mais pour combien de temps ? Que sur ce qui avait lieu chez nos voisins. Je n'en mettrai pas ma main au feu, et d'ailleurs, je plaide coupable, je ne m'appelle pas Daniel Nevers, et mes connaissances à ce propos sont des plus fragmentaires, parasitées en outre par des rumeurs et des légendes. Bref, nous ne serions pas fâchés à Black & Blue que l'existence de ce volume monumental entraîne chez nos confrères hexagonaux une saine émulation permettant l'établissement d'un texte qui révélerait au petit peuple du jazz français ses origines et son histoire lointaine. Il serait au reste très passionnant de comparer cette évolution à celle du jazz italien, de regarder en quoi elles se rejoignent, de repérer où elles se séparent et de comprendre pourquoi. Car l'opus de Mazzoletti ne se contente pas d'établir les faits et de décrire les circonstances, il propose une intelligence du phénomène. J'irais même jusqu'à dire qu'il offre un modèle de perception analytique pour l'étude du jazz dans son ensemble. Programmer une exception comme celle-ci, cela pose, on l'imagine, sans doute un problème capital. Où trouver les documents sonores susceptibles d'illustrer, voire d'éclairer le propos ? Par chance, nous disposons donc de compilations. L'élément le plus ancien remonte à 1912, établi par Adriano lui-même et commercialisé par Riviera Jazz Records. Je vous communique à tout hasard les coordonnées du site internet www.rivierajazz.it. Ainsi, Mazzoletti vole-t-il au secours de Mazzoletti ? Cela dit, c'est à André Clergeat, qui lui aussi a pesé sur les événements, que reviendra le mérite d'être la cheville ouvrière de cette avant-dernière émission de la saison. Georges Pagzinski et moi, nous sommes venus essentiellement pour l'écouter. Espérons que cette tâche n'excédera pas notre compétence.